un temps pour lire.
Nous partageons aujourd'hui la lecture d'un album de bande dessinée intitulé Radium Girls, en américain dans le texte. Une parution Glénat, nous allons parcourir ce livre en compagnie de son autrice, Si. Elle nous propose de partir un siècle en arrière aux États-Unis, à l'époque où le radium fait sa place dans la vie quotidienne, grâce en particulier aux découvertes de Marie Curie. Si, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous avoir au micro de Radio Semnose aujourd'hui. Alors moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, cet album, parce que je me souviens, quand j'étais petit, d'avoir reçu une montre que l'on voyait dans le noir, et j'en étais tout fier. Alors je ne sais pas si elle était fabriquée selon les mêmes méthodes que ce que l'on découvre dans votre album, mais en tout cas, ça nous en rapproche. Et la première question que j'ai envie de vous poser correspond à l'expression qui est utilisée régulièrement dans cet album par rapport à la fabrication de ces montres sur lesquelles on met du radium pour qu'elles brillent justement dans le noir. Lip Deep Paint, qu'est-ce que cela signifie ?
Eh bien, c'est une technique, Lip Deep Paint, c'est une technique qu'elles utilisaient pour lisser le pinceau entre les lèvres, pour avoir le pinceau le plus fin possible et pour pouvoir peindre les pleins et les déliés sur les chiffres des montres. Et en plus, c'est une technique qu'on utilise aussi dans le dessin traditionnellement pour avoir les pointes les plus fines. Et sauf que cette technique devient très dangereuse quand on manipule du radium. Globalement, il ne faut pas mettre de substance à la bouche, ne faites pas ça.
Parce qu'on est ici dans une usine donc américaine qui porte le nom des États-Unis d'ailleurs, hein, et où l'on fabrique des montres, et essentiellement des femmes y travaillent, pas que, mais principalement pour peindre ces fameuses montres. Comment est-ce que cette histoire est venue jusqu'à vous ?
Eh bien, j'ai vu passer un article sur ma timeline Twitter, il me semble. Un article assez succinct, et en fait j'ai été très catchée, parce que Radium Girl, tout de suite, ça envoie quand même. Et je pensais que c'était un groupe de rock des années 60, voilà, un girls band, et pas du tout, c'est pas du tout un girls band. Donc je suis tombée dessus, j'ai trouvé cette histoire, et j'ai découvert cette histoire, et j'ai trouvé ça fou, quoi.
C'est l'époque dans les années 20, 1920 bien sûr, l'époque de la prohibition aux États-Unis. Ces femmes sont baignées dans cette atmosphère où il y a aussi une certaine liberté. Donc on est partagé entre rigorisme et insouciance, je trouve.
En fait, le truc, c'est qu'on suit ces femmes. Donc elles sont dans l'insouciance. Hein. C'est des jeunes adultes qui en plus ont un meilleur salaire que les femmes de la middle class de l'époque, etc. Et effectivement, en fait, cette insouciance, elle vient contrebalancer parce que, enfin, on sait très bien, nous, à l'heure actuelle, que le radium, c'est pas très bon pour la santé. Et en fait, ça permet de contrebalancer ça, où on se dit, cette insouciance-là, au bout d'un moment, il va y avoir un problème, il va y avoir une bascule.
D'ailleurs, la bascule, elle est très violente dans votre album, je trouve, hein, parce qu'on est dans cette insouciance, on sait que ça va arriver, mais ça arrive d'un coup, en fait. On entre dans la noirceur directement, finalement.
Oui, oui, et c'était fait exprès. Parce que c'est arrivé comme ça dans leur vie aussi, en fait. Elles vivaient leur meilleure vie, et le radium a détruit aussi leur vie, mais en un rien de temps. Parce que le radium, en fait, ne perd pas de temps, justement. À partir du moment où il est installé, eh ben, le compte à rebours est lancé. C'est très ironique quand on sait qu'elle peignait des cadrans de montre, quoi.
Oui, effectivement, la montre tourne très vite à ce moment-là. Si on veut faire de mauvais jeux de mots, on est dans l'horreur donc d'un coup, et cela est exprimé dans votre album. Alors que l'histoire d'amitié, de solidarité entre ces femmes perdure. Je pense que c'est un des thèmes qui vous a intéressé particulièrement ici.
Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de le voir à travers le prisme d'un groupe de filles qui sont des potes et qui vont s'entraider, etc. Moi, je voulais que le lecteur soit la septième copine, en fait. Je veux qu'on soit plongé à l'intérieur avec les informations qu'elles avaient aussi à l'époque. Ça veut dire que dedans, je ne parle pas de Marie Curie, parce qu'il y a de fortes chances qu'elles en avaient aucune idée de qui était Marie Curie à l'époque. Donc voilà, je voulais vraiment représenter un groupe de femmes dans toute la sororité qu'il peut y avoir, de meufs qui vont essayer de s'épauler pour survivre à ça.
Comment est-ce que vous vous êtes documenté d'ailleurs sur l'époque ? Vous le dites un peu parce qu'il y a une interview de vous en fin d'album, avec peut-être encore des restes d'anachronismes, mais globalement, on est quand même bien dans les années 20. Enfin, moi, je ne les ai pas vus, les anachronismes, personnellement.
Ouais, bon, on est tous des filous dans la bande dessinée, hein, clairement. En fait, c'était quand même un peu compliqué, parce que ce qu'on imagine être les années 20, souvent, c'est Gatsby le Magnifique. C'est la bourgeoisie, en fait. C'est l'image qui reste. Et elles ne sont pas du tout dans la bourgeoisie. C'est vraiment du middle class des années 20. Donc il a fallu que je cherche là-dedans, et il faut trouver des traces, tout simplement. Donc au début, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit « Ah ouais, je vais pouvoir faire des robes années 20 avec toute l'imagerie qu'on a », et pas du tout, parce que à cette époque-là, elles avaient 3 hauts, 3 bas, et puis c'était le maximum, voilà. Donc oui, après, il a fallu travailler aussi les intérieurs dans le middle class. Attention, est-ce qu'elles avaient l'électricité ? Oui, l'électricité en place, mais est-ce que c'était dans les foyers middle class ? Enfin, c'est des questions qu'on se pose vraiment. À quoi ressemble une poignée de porte à Nevin ? Voilà, ce genre de choses.
Des choses passionnantes à rechercher, mais il faut vraiment aller voir le détail, du coup. Hein. Si cette histoire de Radium Girls apparaît comme étant un combat limité, au final, parce que son impact premier a été relativement limité, oublié, en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler, même si quand on fouille un peu on finit par retrouver des choses, mais il a pourtant, ce combat-là, précisément changé la question du droit du travail aux États-Unis. Alors je pense que ça c'est aussi quelque chose qui vous a particulièrement intéressé.
Oui, parce que en plus, au-delà que ce soit un combat de femmes qui soit encore effacé de l'histoire avec un grand H, en plus là il y a eu un énorme impact sur les conditions des travailleurs, notamment des maladies au travail. Il y a eu vraiment une bascule et surtout il y a eu le radio en fait a été légiféré, mais moi ce qui m'a rendu dingue c'est qu'il a été légiféré mais pas à la suite de leur combat, il a été légiféré au premier homme bourgeois mort du radium, d'un tonique au radium. Effectivement je me suis dit c'est dingue, on a les lois sont restées, les femmes ont disparu, il y en a marre en fait. Et c'est un très bon carburant d'en avoir marre. Donc c'est aussi la colère qui m'a animée en disant « Ah non, non, en fait, on va... » Je suis pas toute seule à essayer de replacer ces femmes dans l'histoire, loin de là, mais c'est juste que j'amène mon petit caillou. Si on amène tous nos petits cailloux, on va pouvoir réussir à reconstruire l'histoire de ces femmes qui n'ont pas disparu, qui ont été effacées. Il y a une différence dans le verbe, quand même.
Alors ça renvoie évidemment à beaucoup d'éléments d'actualité, hein. On a le sentiment d'être toujours concerné par cette situation-là. Enfin, moi, pas forcément trop, quoique, mais pour vous, j'imagine.
Oui, oui, bah, après c'est toujours un cycle, en fait. C'est toujours la même chose, on peut faire des parallèles à plein de choses, l'amiante, le scandale du téflon. En fait, là, en l'occurrence, ça concerne pas forcément que des femmes, mais c'est toujours la même chose. Ça veut dire que c'est toujours une boucle où, en gros, va y avoir un scandale sanitaire qui va être étouffé par les lobbies et qui va finir par éclater par un autre biais et mener à un avancé, mais à grand peine. Donc c'est toujours la même chose et on en a eu dans les années 20, on en a de nos jours et on en aura encore. Encore et toujours, parce que les lobbies et les influences.
Moi, j'ai l'impression aussi que l'humain a une forte propension à jouer aux apprentis sorciers.
Mais en fait, là, en plus, c'est surtout que le radium, il a des propriétés très vicieuses. Déjà, Marie Curie le savait, hein, que c'est dangereux. D'ailleurs, elle a dit « calmez-vous ». Mais globalement, c'était vraiment l'élément miracle. Et en plus, le fait qu'il soit phosphorescent sans besoin d'être chargé au soleil, c'était l'élément où on en mettait partout, des toniques au radium, des cosmétiques et tout. Un peu comme l'or dans les cosmétiques, alors que c'est un métal lourd, où ils font attention, mais bon, voilà. Et en fait, il y avait aussi ce côté-là où, par exemple, c'est comme si on nous disait dans 20 ans que l'aloe vera, c'était pas bon, alors qu'on en fout partout, par exemple, actuellement. Donc c'est pour ça, beaucoup me disent « Mais pourquoi elles s'en sont pas rendues compte ?» Mais parce qu'elles baignaient dedans, et que bien sûr que non, qu'elles pensaient pas, en fait. Et il faut savoir aussi, le truc très vicieux, c'est que le radium, avant de te tuer, il te booste l'organisme. C'est quand même très vicieux. Hein.
Oui, ça fait penser à un certain nombre de drogues qui nous font nous sentir bien, mais pas très longtemps, malheureusement. Il y a un épisode qui m'a particulièrement touché dans votre album. C'est le moment où Grace rencontre son avocat. Elle réussit enfin à rencontrer quelqu'un qui la prend au sérieux. Et il y a une dernière vignette, une dernière case où vous les montrez de haut et où il y a une relation qui s'établit entre deux. Elle m'a donné l'impression d'être pour la première fois entendue, effectivement, dans cette case.
Oui, effectivement, en fait, cette case, moi, pour moi, elle était très importante, parce que ça veut dire qu'on va enfin aller en justice. Parce que vraiment, ça a duré longtemps. Genre, l'errance et la recherche d'avocats qui voulaient les aider, vraiment, il n'y en avait pas. Elles ont déjà été entendues quand un premier docteur s'est intéressé à leur cas. Mais oui, en fait, c'était quelque chose de fort, en fait, que ça soit un jeune avocat qui se dise, bon, on va y aller. Si je ne peux pas vous sauver, on peut peut-être vous aider, en fait.
Alors si, parlons de votre dessin. Vous avez travaillé au crayon de couleur, avec un choix de couleurs relativement restreint, mais ça n'empêche pas que ce soit très réussi, hein, je le souligne. Et ce travail, il est à la fois léger et dense, je trouve. En particulier les pages où les femmes sont traversées par les rayons. Je laisse au lecteur le soin de découvrir de quoi il s'agit. C'est léger et dense comme le sujet, en fait.
Oui, tout à fait. Bah, c'est une technique particulière où j'ai que une dizaine grand max de crayons. J'en ai 8 et puis après quelques-uns en plus. Je travaille par strates où j'empile les pigments les uns au-dessus des autres pour créer des atmosphères différentes, etc. Et effectivement, quand il y a un propos, forcément, il peut y avoir une atmosphère beaucoup plus dense, beaucoup plus de pigments, etc. Bon, c'est pas toujours voilà, aussi systématique. Il y a certaines planches qui sont d'une légèreté parce qu'il faut faire respirer aussi. Je voulais coller le plus possible à ce qu'elles ont vécu, en fait, ces femmes. Donc voilà, ouais, bah, si le trait vous plaît, bah, parfait.
En tout cas, moi, c'est sûr. J'espère que ce sera la même chose pour nos auditeurs. Je vous invite vraiment à découvrir cette bande dessinée. Une dernière chose par rapport à la couverture. Il y a quand même une certaine ironie dans cette couverture, non? Le fait qu'il lui arrive quelque chose à elle aussi quand elle est plongée dans le noir.
Oui, tout à fait. La couverture est phosphorescente. Il y a un pelliculage phosphorescent dessus. Je tenais en fait à ce que ça soit phosphorescent parce que, au final, ce sont des femmes qui ont des visages radieux et souriants. Et quand on la plonge dans le noir, elles sont phosphorescentes comme elles l'étaient, en fait, quand elles sortaient des entreprises, parce que la peinture qu'elles utilisaient était en poudre, et donc elles étaient entièrement recouvertes de cette poudre. Donc voilà, oui, c'est un peu cet effet, un petit effet qui se coule, on peut appeler ça comme ça.
Une manière de ne pas les oublier, parce qu'elles, elles jouaient aussi avec ça, en tout cas dans un premier temps, une manière de retrouver cet album quand on est dans le noir.
Tout à fait.
Il nous sert de marqueur, quelque part. Et je vous invite à nouveau à lire donc, cette parution Glénat par Si, un très beau travail, découvrez-le, il s'agit de Radium Girls, découvrez aussi cette histoire qui nous emmène pas si loin que cela, enfin qui nous ramène à nous-mêmes en fait. Merci beaucoup Si d'avoir répondu à nos questions et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous suivre encore, je sais que vous avez des projets en préparation, on en reparlera, merci.
Avec plaisir.